contre-spirituel aujourd'hui sera question de Christophe Colomb. Un personnage beaucoup plus mystique et beaucoup plus religieux qu'on ne pense. Hein. Il faut lire vraiment ce qu'il a écrit, c'est extraordinaire. Et sans compter le tempérament qu'il avait, est absolument étonnant. Sa vie est entachée de quelques erreurs, mais enfin. Christophe Colomb qui est mort en 1506, un 20 mai. Découvreur de l'Amérique, dit-on, mais on sait qu'il y en a d'autres qui sont venus avant lui. Mais c'est un grand homme, et il sera question aussi des chevaliers de Colomb, qui sont plus de 100 000 au Québec. Intéressant de savoir qui ils sont. Et vous savez que leur idéal est extraordinaire, c'est un très bel idéal. Leur dirigeant ici est M. Yvon Boutin. J'ai parlé hier à M. Alphonse Martel, son assistant. Je vois des gens dynamiques. Saviez-vous que l'Ordre des Chevaliers de Colomb est le plus important organisme catholique laïque au monde? Et que son œuvre essaie surtout de seconder, on peut dire, le pape et l'Église entière dans toutes sortes d'œuvres par leur générosité et leur action. Mais qui est Christophe Colomb? Il est difficile de fixer le lieu et la date de naissance de Christophe Colomb. On n'est pas trop sûr. Il y a des gens comme des Corses qui prétendent qu'il est né à Calvi. Un grand nombre de villes d'Italie aussi revendiquent l'honneur de lui avoir donné le jour. Bah. Mais de toutes les villes d'Italie, il y en a une seule dont il faut retenir le nom, c'est Gênes, dans le nord, complètement. Gênes, qui a des titres vraiment sérieux, a réclamé la naissance de ce grand Italien, Christophe Colomb. Son père s'appelait Domenico Colombo. Ça nous rappelle une émission de télévision, Colombo, quand on prononce ça à l'italienne. Il exerçait le métier de tisserand. Pendant quelque temps, bien Christophe, le jeune Christophe, a exercé la même profession de tisserand. On dit qu'il est né entre le 31 octobre 1446 et 1451. Bon, d'un 31 octobre à l'autre, 31 octobre, on n'est pas sûr. Les dates qu'on donne le plus souvent, c'est 1447, pour ce qui est de l'année. D'autres disent que l'hypothèse la plus probable est qu'il est né à la fin de l'année 1446. Peu importe. On sait qu'il a fait des études de sommaire. Ses connaissances, même en géométrie, en astronomie, en géographie, sont plutôt très incomplètes. Mais heureusement, il aura de l'aide. Après le 7 août 1473, donc il est encore très jeune, on perd sa trace en Italie. Il a dû se rendre assez tôt, en Portugal, où il se marie. Et la vie de marin lui sourit. Il écrit en 1492, l'année où il est venu pour la première fois en Amérique. L'Amérique tire son nom de Américo Vespucci. C'est dommage, ça s'appelle pas de son prénom Christophe. Ce serait encore plus beau. Il dit, donc en 1492, « J'ai navigué sur mer pendant 23 ans, sans interruption notable. J'ai vu tout le Levant et le Ponant, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, ce qu'on appelle le chemin du Septentrion du Nord, qui est l'Angleterre. Et j'ai voyagé en Guinée, il est allé en Guinée, en Afrique. En somme, il est allé dans la Méditerranée jusqu'à l'île de Quio. D'Angleterre, il s'est avancé en 1477 à 100 000 en mer vers la fameuse les îles Féroé, la Tulé. Et son mariage donne à penser qu'il s'est rendu à Porto Santo auprès de Madère aussi. Christophe Colomb épouse, en effet, n'est-ce pas, au Portugal, Philippa Moniz. C'est une parente par alliance des Pirestrello qui ont colonisé Porto Santo. Il est vraisemblable que le mariage a été célébré à Lisbonne, dans la capitale de ce tout petit pays, le Portugal, qui est porté au nu ces jours-ci par une grande exposition, ce petit pays séparé de l'Espagne, au bout de l'Espagne, n'est-ce pas? grand pays, noble pays, et la date est inconnue. Mais Christophe Colomb abandonne, c'est là l'erreur de sa vie, peut-être de sa femme et ses enfants. Quand il quitte le Portugal pour l'Espagne, de 1484 à 86, c'est très indigne de sa part. Il n'avait pas 40 ans, abandonner sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, ça se fait tellement qu'on se demande si c'est vraiment si épouvantable que ça. Mais c'est épouvantable. C'est horrible pour la femme qui demeure seule comme ça. Le navigateur, qui est Christophe Colomb, s'intéresse nécessairement aux questions de voyage maritime. Il ne faut pas croire que sa découverte du Nouveau Monde, c'est le fruit d'une intuition de génie. C'est pas une simple aventure, non, non. Christophe Colomb alimente sa curiosité dans des ouvrages spéciaux. Puis entre tous ses livres, il lit avec attention une œuvre très importante à l'époque, L'Imago Mundi, de Pierre Dailly, D'A-I-2-L-Y. Pierre Dailly, c'est qui? C'est un cardinal évêque de Cambrai, en France. C'est écrit vers l'an 1410. Ouvrage savant s'il en est. Ce cardinal était extraordinaire. C'est un traité sous une forme un peu scolastique, c'est-à-dire où la raison a beaucoup d'influence. Ça offre une compilation de bon nombre d'auteurs antérieurs. Et ce cardinal Dailly est désireux de réunir toutes les connaissances des anciens sur le monde. Et il cite pêle-mêle la Bible, les Grecs, les Arabes, les auteurs latins et quelques auteurs modernes de son époque. Il ignore, pourtant, chose étrange, Marco Polo, le fameux Marco Polo qui a tant parcouru les mers. C'est dans ce livre, donc, L'image du monde, Imago Mundi, que Colomb puise tout son bagage cosmographique, quoi, pour connaître ce qu'on peut connaître à l'époque, et ses connaissances géographiques aussi, surtout les idées générales qui le dominent sur la grandeur et la forme de la Terre, le peu de largeur de l'océan, finalement, la situation du paradis terrestre, l'approche de la fin du monde, aussi, c'est des curieux ouvrages. Et l'ardeur de Christophe Colomb dans ses recherches cosmographiques est surtout accrue par quelque chose, c'est l'espoir de trouver sur la côte orientale de l'Inde le paradis terrestre que saint Isidore de Séville, saint Jean Damascène, Bède le Vénérable et le cardinal Dailly placent là sur les pentes d'une immense montagne. Puis un des maîtres qui oriente particulièrement Christophe Colomb dans ses recherches, c'est Toscanelli, c'est un médecin de Florence, qui a une connaissance assez approfondie pour son époque des choses cosmographiques. Ce médecin a dressé une carte de l'ensemble de la Terre pour mettre en lumière son opinion, et Christophe Colomb entre en relation avec lui. Et c'est la carte du savant médecin de Florence qui guide les premières navigations de ce grand génois, puisqu'il vient de Gênes, Christophe Colomb. Et le docteur Toscanelli avive la confiance de Christophe Colomb. Il dit « Je loue votre projet de navigation vers l'ouest », c'est ce qu'il lui écrit. « Et je suis convaincu que la route que vous voulez suivre n'est pas aussi difficile qu'on le croit. Au contraire, telle que je l'ai tracée, elle est sûre. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se rendre rapidement sur les côtes de l'Amérique. Ça va lui prendre un mois à peine. Surprenant, hein? Nos ancêtres prenaient 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais l'entreprise... Quand je dis nos ancêtres, je parle de nos ancêtres, je m'excuse, de ce qu'on appelle, nous, les Québécois de souche. J'ai tout le respect profond pour tous ceux qui sont venus se joindre à notre peuple pour former le peuple du Québec. Hein. Je vous ai à cœur, je vous aime. Mais l'entreprise que veut tenter Christophe Colomb est extrêmement coûteuse. Colomb est pauvre. Hein. Par bonheur, il entre par hasard au monastère de Rabida, et c'est près de Huelva. Il fait connaissance d'un moine qui s'appelle Juan Pérez, qui avait été le confesseur de la reine Isabelle, imaginez, quelqu'un d'important finalement, ce moine. Et ce bon frère, ce bon moine, se rend à la cour. Il va rencontrer la reine Isabelle. Et puis, il lui fait partager sa confiance à la reine. Quelques mois plus tard, une nouvelle rencontre où le cardinal Mendoza, archevêque de Tolède, qui est le premier personnage ecclésiastique d'Espagne, va jouer le principal rôle en se prononçant en faveur du projet de Christophe Colomb. Et dès ce moment, la cause de Christophe Colomb est gagnée. En vertu d'une convention signée le 17 avril 1492, on y est, l'année 1492, Colomb est autorisé à prendre la mer, et quelques jours plus tard, le 30 avril, l'ordre d'armer l'expédition à Palos est enfin donné. Armer l'expédition? Bah, par armement, il faut entendre l'équipement de 3 caravelles. Et qui appartenaient à des particuliers, là, et qui sont mises en réquisition par la reine, au nom de Ferdinand et d'Isabelle, d'ailleurs, le roi et la reine, pour un temps illimité. La plus grande et la seule pontée, là, qui est des ponts, des 3 caravelles, était montée par Christophe Colomb. Elle s'appelait la Santa Maria. La Santa Maria. Oh, j'aurais des choses à vous raconter là-dessus, mais enfin... L'expédition est aux frais de la couronne de Castille. On y dépense 1 140 000 maravédis, une somme très importante pour l'époque. Et Christophe Colomb à Paris, le 3 août, voyez-vous, ça va assez vite, 1492, à l'embouchure du Rio Tinto, en face de Huelva. Il se dirige vers les Canaries, puis en septembre, la mer devient très dure. Les matelots inquiets se mutinent. Et c'est là un terrible sujet de préoccupation pour le capitaine, ou plutôt pour l'amiral, car il y avait le titre d'amiral Colomb. Hein. Une pension annuelle de 10 000 maravédis est promise à qui signalera le premier la terre. Et ça arrive le 11 octobre, vers le soir. Colomb lui-même aperçoit une lueur que ses compagnons n'ont pas de difficulté de reconnaître. Et plus tard, il va se faire adjuger la pension promise à celui qui aura vu la terre le premier. Le 12 octobre, quand le soleil se lève, les navigateurs peuvent contempler une belle île couverte de verdure. Et qu'est-ce que fait Christophe Colomb? Il entonne le Te Deum. Les passagers se précipitent sur le rivage et embrassent la terre promise. Qu'est-ce que c'est ça, le Te Deum? Te Deum laudamus, te dominum confitemur. C'est un long chant qu'on chantait souvent autrefois, nous. Ô Dieu, nous vous louons, Seigneur, nous vous glorifions. Père éternel, la terre entière vous révère, tous les anges, les cieux et toutes les puissances, les chérubins, les séraphins d'une voix inlassable redisent « Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de votre gloire, etc., etc. » C'est très long et c'est magnifique, et ça se termine avec des paroles sublimes. « Ah, guidez-le et soulevez-le jusqu'à l'éternité. » Chaque jour, nous vous bénissons et nous louons à jamais votre nom dans les siècles des siècles. Que ces prières étaient belles, eh bien c'est ce qu'il a chanté en arrivant sur les terres d'Amérique. Alors Christophe Colomb et ses bateaux sont arrivés, n'est-ce pas, sur la terre ferme, sur une île. Le 12 octobre, ou le 11 octobre vers le soir, c'est là qu'il le voit, puis il descend le 12 octobre, 1492. Christophe Colomb donne à l'île le beau nom de San Salvador, Saint-Sauveur. Ça nous rappelle Monseigneur Romero, martyr, tué en célébrant sa messe. Il y a 32 jours, donc, que l'équipage a quitté les îles Canaries. Voyez-vous, 32 jours, juste un jour de plus qu'un mois, quoi, pour traverser comme ça. Il savait où il s'en allait. De San Salvador, Colomb gagne la côte vers le nord, au nord de Cuba. Et puis, il se rend à Haïti, qu'il baptise Española ou Hispaniola. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail de ses voyages et découvertes, ce ne serait pas des plus intéressants si ça n'en finit plus. Mais il y a des détails qu'il faut quand même mentionner pour avoir une meilleure connaissance du courage de cet homme, Christophe Colomb. Après être entré en Espagne, Il fait un second voyage en Amérique, de 1493 à 96, cette fois-là, c'est long, hein. Alors, il découvre la Guadeloupe, la Jamaïque. Il fait un troisième voyage, 1498 à 1500. Il se dirige vers sa colonie d'Hispaniola, là, à Haïti, qu'il a quitté depuis 18 mois. Et son frère, Barthélemy, y a étendu la domination espagnole et fondé la ville de San Domingo. De 1502 à 1504, sa période mystique. Quatrième voyage, inspiré justement par des idées mystiques. L'idée de la fin prochaine du monde. Oh, j'ai des beaux textes de lui là-dessus, c'est intéressant. L'urgence d'une nouvelle croisade aussi hante l'esprit de Colomb. Il faut se procurer les trésors nécessaires pour une expédition en Terre Sainte, croit-il. Pour l'enlever aux musulmans et restituer les Terres Saintes, la Terre Sainte où a vécu Jésus, où il est mort, où il est ressuscité, aux chrétiens pour qu'ils puissent y aller en pèlerinage en toute liberté. Les Indes, croit-il, peuvent fournir ces trésors. Et Colomb compte marcher ensuite à la conquête du Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Parti de Cadix le 11 mai 1502, il passe par la Jamaïque. Il aborde la côte du Honduras. Des tempêtes, des luttes contre des Amérindiens, des indigènes, le force à battre en retraite. Et le 13 août 1504, il est à Saint-Domingue. Et le 7 novembre, quelques mois plus tard, il aborde à Sanlúcar, en Espagne. Et les dernières années de Christophe Colomb sont tristes. Mais vous, je vous ai raconté ça très vite, là. Ce serait beau de raconter ça en long, mais on n'a pas le temps. Les dernières années de Christophe Colomb sont tristes. Isabelle, la reine Isabelle, est morte. Le roi Ferdinand ne tient pas à l'égard de l'amiral Christophe Colomb les promesses que la reine Isabelle a faites. L'âme de Christophe Colomb se reflète dans son testament, dans lequel il dispose définitivement pour l'avenir de l'emploi des rentes et des produits. Il veut assurer à sa lignée, parce qu'il y a des enfants, un fils en particulier qui a écrit sa vie, j'ai ça en main, c'est très intéressant à lire. Hein? Oh, c'est un ouvrage passionnant à lire. Oh, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ce livre. C'est Christophe Colomb raconté par son fils, Fernando Colomb. C'est chez Perrin, aux éditions Perrin. C'est en librairie, ça. Je vous recommande ça, c'est dans le style de l'époque et tout ça. C'est beau le témoignage d'un fils à l'égard de son père. C'est rare qu'on voit ça. Et c'est beau, c'est touchant. Ça me touche d'autant plus que c'est le 4e anniversaire aujourd'hui de la mort de... Bon, ça dure de la mort de mon fils. Mon fils est mort le 8 mai, mais on a trouvé son corps sur le haut du pont Jacques-Cartier le 20 mai. Oui, c'était ce soir que je suis allé à la morgue voir son corps, le reconnaître. Pauvre lui, il avait fait plusieurs années, oh, quand il était jeune, quand je l'ai adopté, il avait fait le Santa Maria, le bateau. Je lui avais acheté tout ça, puis il avait tout fait. C'était extraordinaire. Je ne pensais jamais qu'il pouvait avoir ce talent quand je l'ai pris. Avez-vous vu à la télévision l'autre jour cet homme de Bécomo qui a adopté 4 garçons comme ça, difficiles? Ah, j'avais les larmes aux yeux en voyant cette émission, c'est si beau. Alors, le roi n'écoute pas, n'est-ce pas, les promesses de sa femme Isabelle, mais il adresse un testament, lui, avant de mourir, Christophe Colomb, pour assurer à sa lignée le droit par droit d'aînesse ses conventions avec la couronne de Castille. Hein. Et on voit qu'il entend payer la dîme à Dieu pour les pauvres. Il veut coopérer aussi à la délivrance du Saint-Sépulcre. C'est un homme vraiment attaché à l'Église. Il va assurer l'indépendance du pape, soulager les malades et travailler à la conversion des Indiens. Il meurt dans les bras des franciscains de Valladolid le 21 mai 1506, ou le 20 mai selon d'autres. Ses restes sont d'abord déposés dans le couvent, mais en 1537, la veuve de son fils Diego obtient de Charles Quint l'autorisation de les transporter à Hispaniola, en Haïti, alléguant que telle était la volonté de Christophe Colomb. Alors, ses restes sont donc inhumés dans la cathédrale de Saint-Domingue, dans la République dominicaine. Et en 1795, quand Saint-Domingue est cédé à la France, l'amiral Don Gabriel d'Artibazel les fait transporter à la Havane, à Cuba. Ils sont solennellement déposés dans la cathédrale, dit-on le 16 janvier 1796. Mais où donc est le corps de Christophe Colomb? Dans la presse du 7 mars dernier, on écrivait que le président de la République dominicaine, Joaquín Balaguer, a fait construire un immense phare cruciforme pour préserver ce qu'il appelle le cercueil de l'explorateur italien à Santo Domingo, la capitale du pays. Il a dépensé 250 millions de dollars, une dépense qui n'a pas été appréciée des Dominicains, les habitants de Saint-Domingue. Surtout que l'Espagne, la Guadeloupe et d'autres îles des Antilles affirment que Colomb repose quelque part dans leurs terres, et j'imagine aussi peut-être à Cuba, à la Havane. Mais à Santo Domingo, ce tombeau n'est pas la seule attraction. À deux pas du centre-ville se trouve la zone coloniale. C'est le plus vieux quartier du Nouveau Monde, savez-vous, que l'on peut facilement visiter à pied. Alors, il y a d'abord la rue Las Damas, où se succèdent plusieurs bâtiments historiques, dont l'Alcazar de Colón. Oui, on l'appelle de Colón, C-O-L-O-N, c'est l'appellation italienne du nom de Christophe Colomb, et qui a servi de demeure à Diego, le fils de Christophe Colomb. Et puis, on peut visiter bien d'autres choses. Et il y a un bâtiment de style gothico plateresque, là, qu'on prend 14 chapelles, dont l'une aurait servi à préserver le tombeau de Colomb jusqu'à ce qu'il soit déménagé au phare, le président de la République dominicaine, Joaquín Balaguer, a fait construire ce tombeau-là de 250 millions, qui est tout nouveau. Il y a bien, comme vous voyez, des querelles autour de ce tombeau. Mais la découverte de l'Amérique est apparue aux contemporains de Christophe Colomb comme un tournant dans l'histoire du monde, évidemment. Et pour Christophe Colomb, cet événement s'inscrit dans une certaine histoire sainte. Puis décrypte tout ça dans les écrivains sacrés. Et c'est en 1501, au moment de ses élans mystiques, là, au retour de son troisième voyage aux Indes orientales, comme on disait, que Christophe Colomb compose un recueil de citations pour la plupart tirées de la Bible, où il voit l'annonce. Puis cette espèce d'accréditation de sa découverte du Nouveau Monde, puis il intitule cet opuscule « Le livre des prophéties ». Ça n'a pas été entièrement publié, mais les extraits sont extrêmement intéressants. Il faut dire que l'année précédente, ce grand navigateur a été rappelé de l'île d'Hispaniola, en Haïti, en Espagne, puis a perdu ses pouvoirs de vice-roi des Indes à cause, dit-on, de la mauvaise façon dont il administrait les territoires qu'il avait découverts. Et puis, il s'appuie sur ses relations, puis il remue ciel et terre là, pour rentrer en grâce auprès des rois catholiques Isabelle de Castille, qui meurt en 1504, puis son mari Ferdinand d'Aragon en 1506. Vous savez qu'il est entré les fers aux pieds. Il était très maltraité, mais heureusement, il s'est rétabli. Le fils de Christophe Colomb raconte ça, et je vous raconterai le bref passage où il parle de son père enchaîné. C'est très, très, très émouvant. Je vous ai dit que je vous parlais aujourd'hui de Christophe Colomb. Eh bien, je vous ai promis, en parlant de Christophe Colomb, de vous citer le passage raconté par son fils, Fernando Colomb, où il raconte que son père a été enchaîné. C'est très court, hein. On dit ici, je vous raconte pas tout. Une fois en mer, ce capitaine, on ramène Christophe Colomb en Espagne, une fois en mer, ce capitaine, pour qui ne faisait point doute la cruelle injustice de Bovadiglia, qui l'avait condamné à être enchaîné, voulut ôter les fers de l'amiral. Il appelle toujours son père l'amiral. Mais l'amiral s'y opposa, disant que les rois catholiques lui ayant ordonné, dans leurs lettres, de se soumettre à tout ce que lui commanderait Bovadiglia, et celui-ci l'ayant fait charger de chaîne, ils voulaient laisser à leurs altesses seules le soin de décider s'ils devaient en être délivrés. Et le fils, merveilleux, raconte, entre parenthèses, il avait d'ailleurs pris, dès lors, la résolution de conserver ses chaînes en manière de relique, témoignant du prix qu'il avait reçu de ses services. Il les garda en effet. Je les vis plus tard dans sa chambre, où il les avait suspendues. Et il ordonna même qu'elle fût déposée dans son cercueil. Le 20 novembre 1500, il écrivit au roi, pour leur annoncer, au roi avec un S, pour leur annoncer qu'il venait d'arriver à Cadix. Quand les rois apprirent que l'amiral était arrivé et qu'on le retenait prisonnier, ils envoyèrent aussitôt l'ordre de le remettre en liberté et lui écrivirent de venir auprès d'eux à Grenade, où se trouvait alors la cour. C'est un fils qui raconte la misère de son père. C'est assez touchant, très émouvant, que ce livre, paru chez Perrin. Christophe Colomb fait de nombreux séjours à la chartreuse de Cuevas, près de Séville, et c'est là qu'il s'est lié avec ce moine, le père Gaspard Goriccio, dont je vous ai parlé, un homme très religieux, très exalté. C'est comme ça qu'il a approfondi les textes sacrés. Puis, il rassemble ce qui lui paraît se rapporter à sa grande entreprise, c'est comme ça qu'il fait ça. Puis il devient très ferré en matière religieuse. Et il écrit le livre des prophéties. Et c'est très significatif de la mentalité de cet homme. Et il se réfère à certains moments à des choses très très belles. Il dit à un moment donné que vos altesses se souviennent de l'Évangile et de tant de prophéties qui nous firent notre Seigneur, et comment tout cela s'accomplit. Puis il leur dit, Saint-Pierre marcha sur la mer tant que sa foi fut ferme. Personne, donc, ne doit craindre d'entreprendre quelque chose quand c'est au nom de notre Seigneur. Si son dessein, son projet est juste et ordonné à son saint service. Il ajoute, Christophe Colomb, « J'ai dit plus haut qu'il restait beaucoup de prophéties à accomplir. Je dis aujourd'hui qu'aujourd'hui il se fait de grandes choses dans le monde et que notre Seigneur se hâte en tout cela. La prédication de l'Évangile en temps de terre et en des temps tout récents est aussi un signe. » Et puis là, il cite l'abbé Joachim de Calabre, qui dit qu'il doit venir d'Espagne celui qui réédifiera la sainte maison du mont Sion à Jérusalem. Christophe Colomb recense alors de nombreuses citations des psaumes. Oh, par exemple, le psaume 19. Et tout ce qui annonce la protection divine, Colomb, si souvent enclin au découragement, se l'attribue. Il se donne du courage. Il cite aussi à un moment donné un extrait d'une lettre de Rabbi Samuel. Oh, Rabbi Samuel, c'est pas n'importe qui. C'est nul autre que le fameux théologien Nicolas de Lyre, qui est né à Fès, qui s'est converti au catholicisme, puis qui a vécu en Espagne où il a exercé une large influence. Il est mort en 1340. Alors, il cite ce grand rabbin Samuel, qui écrit à Rabbi Isaac. Voici le texte. Jérémie a écrit au chapitre 3, « Seigneur mon Dieu, les peuples des extrémités de la terre viendront à ta sainte maison et changeront leur cœur mauvais. » Jérémie ajoute au chapitre 16, « Les païens viendront du bout du monde. » Vous savez, ils sont hantés par la conversion des Amérindiens et de l'univers entier, ces catholiques-là. Hein? Parce que ce rabbin est catholique. Hein? Ben, c'est un ex-rabbin. Le prophète Zacharie, dit-il au chapitre 21, écrit, « Réjouis-toi, fille de Sion. » Car le Seigneur est en toi, et toutes les nations s'approcheront du Seigneur. Je crains, poursuit Rabbi Samuel, que les païens, avant de croire en Dieu, n'aient jamais fait que des œuvres mauvaises, comme ces animaux dont parle le prophète Habacuc, qui vivent épars sans personne qui les dirige. Puis là, il ajoute quelque chose de très surprenant, ce n'est pas grâce aux prophètes que ces païens ont cru, mais par la prédication des disciples du juste, c'est-à-dire de Jésus, de ceux que nous appelons les apôtres. Comme le dit le psaume 18, ajoute ce rabbin, leur voix s'est fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Christophe Colomb cite aussi les pères de l'Église. On voit qu'il a une formation religieuse étonnante. Et en somme, sa vie est nourrie d'une pensée spirituelle de plus en plus forte. Il avait prédit que les croisades en Terre Sainte ne réussiraient pas, car la réussite était réservée pour d'autres temps, écrit-il au sujet de l'abbé Joachim dont j'ai parlé. Alors, il parle de bien des choses, et finalement, il écrit qu'un empereur chrétien s'installera à Jérusalem, et alors apparaîtra le fils de perdition. Là, il sombre dans toutes sortes de prédictions, comme c'est la mode aujourd'hui. Mais Christophe Colomb s'appuie heureusement ensuite sur les prophètes de la Bible. Il redevient un peu plus les pieds à terre. Puis, assez étrange dans ce contexte, il y a une citation d'un philosophe païen, mais tellement prémonitoire, c'est une citation de Sénèque. Il écrit « Prophétie de Sénèque ». C'est dans sa Médée de Sénèque. Un jour, je prépare quelque chose sur Sénèque, c'est très beau, hein? Alors, prophétie de Sénèque, Christophe Colomb écrit « Viendra un temps ». C'est le texte de Sénèque, il l'écrit, le transcrit. « Viendra un temps, dans les dernières années du monde, où l'océan desserrera les liens des choses, une terre immense apparaîtra. » Une terre immense apparaîtra, l'Amérique. « Car un navigateur, Christophe Colomb, surviendra, tel celui qui eut nom Tiphys et qui fut guide de Jason. » Ou Jason, comme on dit aujourd'hui. « Et il découvrira un nouveau monde. » C'est extraordinaire, hein? Il s'amuse à citer ça. Je crois devoir abandonner Christophe Colomb, je vous en ai dit assez, en vous signalant quand même que Jacques Herz a publié chez Hachette, il y a quelques années, un beau Christophe Colomb, que Heinrich Houben aussi, dans sa petite bibliothèque Payot, là, chez Payot, a publié un Christophe Colomb, 1447-1506, voyez-vous, il lui donne bien la date définitive aujourd'hui, c'est 1447, pour sa naissance. Puis, il y a les mémoires de Christophe Colomb, de Stephen Marlowe, j'ai ça, moi, c'est une espèce de roman. Je vous le recommande pas nécessairement. Mais ça peut être intéressant, c'est publié aux éditions du Seuil, un gros roman, qu'il appelle Mémoires de Christophe Colomb. C'est Stephen Marlowe, aux éditions du Seuil, en 87, on trouve toujours ça. Puis, il y a aussi un livre de Peter Sis, Christophe Colomb chez Grasset, paru il y a 2 ans seulement, qui est bien fait. Et puis, le portrait historique de Christophe Colomb, de Marianne Manlow, c'est dans Point Histoire, aux éditions du Seuil. Il y a aussi de beaux livres sur Christophe Colomb, j'en ai de magnifiques, comme Image d'un visage inconnu, immense ouvrage, illustré de centaines et de centaines de choses qui se rapportent à Christophe Colomb, des tableaux, des sculptures, des poupées même. C'est très, très, très bien expliqué. Magnifique ouvrage, volumineux, immense, publié chez Villo, V-I-L-O, à Paris. Et puis, il y a toujours aussi cet immense bouquin, La découverte de l'Amérique, les grands voyages d'exploration du Nouveau Monde, publié par les éditions de L'Homme, ici à Montréal. Un gros bouquin. Mais je voudrais vous parler, avant de terminer, des chevaliers de Colomb qui me tiennent à cœur. Vous savez que l'an dernier, ils ont célébré ici leur 100e anniversaire d'arrivée au Québec. Le 115e anniversaire, c'est le 115e congrès des chevaliers de Colomb. Ils ont rempli l'église Notre-Dame, comme on ne la voit jamais remplie à peu près. Il y a 2000 chevaliers de Colomb canadiens, américains, mexicains, philippins et latino-américains. C'est surtout là que s'est établie cette œuvre admirable. Et puis, ils étaient là avec leur famille. Ils ont eu droit à une messe solennelle à laquelle ont participé combien d'archevêques et d'évêques? 95. 250 prêtres. Et comme disait le cardinal Turcotte, sauf à Rome, je n'ai pas souvent vu de messe avec autant d'évêques. Tant que plus grand organisme d'entraide familiale au monde, l'Ordre des Chevaliers de Colomb jouit de la reconnaissance de l'Église, et pour cause. La plupart sont de fervents catholiques. Je ne dis pas tous, je dis bien la plupart. Et ça vaut la peine, si les jeunes entraient là-dedans, ils pourraient rénover encore cette œuvre qui appelle les jeunes. Il y a des jeunes de 25, 30, 35 ans qui pourraient faire des choses admirables à l'intérieur de cette œuvre. Cardinal Turcotte estime qu'il joue 3 rôles majeurs pour la société. D'abord, dit-il, il ramasse des fonds, bon, pour aider toutes les misères. C'est vrai qu'ils aident les misères. Ils sont de toutes les bonnes causes aussi. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et ensuite, ils donnent une fierté à des gens simples et serviables. Vous savez, les laïcs se demandent où aller pour être des laïcs catholiques. Voilà un endroit. Le cardinal dit, enfin, il croit énormément à la famille. Et Dieu sait que la famille est une cellule qui bat de l'aile de nos jours. Ça a été fondé, ça, en 1882 par un prêtre américain d'origine irlandaise, Michael McGivney. Dans le but d'aider les veuves catholiques, grâce à un régime d'assurance-vie. Il voulait s'occuper des femmes abandonnées par le veuvage. Des femmes seules. Bon prêtre. C'était un régime, donc, d'assurance-vie qui existe toujours. Et l'ordre Chevalier de Colomb a grandement élargi ses activités avec les années. L'an dernier seulement, ou il y a 2 ans, ils ont consacré 105 millions de dollars américains, dont pas loin de 150 millions de dollars des nôtres, et plus de 50 millions d'heures de travail bénévole à toutes sortes de bonnes œuvres. C'est quelque chose, hein? Et le chevalier suprême, qui s'appelle Virgile de Chantes, est responsable de la santé financière des activités d'assurance de l'ordre. Ça s'élève à plus de 30 milliards de dollars, ce qui leur permet, avec les revenus, d'aider énormément. Puis ils ont la gestion d'un actif supérieur à 6 milliards. Et malgré son excellente santé financière, puis les 1 600 000 membres dans le monde, dans les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont 102 000 au Québec, bien l'ordre des Chevaliers de Colomb s'inquiète toutefois pour sa survie, parce que les Chevaliers de Colomb ont en moyenne 55 ans. Puis les jeunes se bousculent pas au portillon. Hein. C'est l'abbé René Martin qui dit quelque chose qui est un peu dur. Ils ont quelque chose d'un peu spécial, un peu peut-être trop ancien, d'artificiel. Les jeunes ne s'identifient pas à ça. Il y aura besoin d'une transformation. Et monsieur Yvon Boutin, qui est nouvellement élu président des Chevaliers de Colomb, n'est pas prêt à lui abaisser les bras. Non. Il dit qu'il faut d'abord faire comprendre aux membres qu'ils doivent faire de la place aux jeunes. Et ensuite, il faut développer chez les jeunes l'amour du bénévolat. Puis beaucoup de jeunes ont cet amour du bénévolat, tout en tenant compte de leurs goûts différents. Alors, c'est un appel aux jeunes, ça. Avec le désengagement social de l'État, les Chevaliers de Colomb doivent, dit-il, M. Boutin, pouvoir continuer leur action, au vu et au su de tout le monde, hein? Oh, il y a des gens qui vont me poser des questions sur les cérémonies d'initiation. Bah, je n'en connais rien. Je n'ai pas appris ce que c'est. Et je ne suis pas chevalier de Colomb. Et je ne peux rien vous dire à ce sujet. Si vous voulez vous renseigner au sujet des chevaliers de Colomb, la meilleure chose, à mon avis, c'est de se procurer ce qui vient de paraître, il n'y a pas longtemps, ici, à Montréal, chez les chevaliers de Colomb. Une brochure intitulée « S'élever, oui, monter, en servant ». Un beau titre, « S'élever en servant », 1997-1998. Et cet ouvrage, ça a une cinquantaine de pages, nous montre comment utiliser le programme de service, puis comment s'engager pour dire « s'impliquer personnellement ». S'engager, ça veut dire « s'impliquer personnellement ». Il parle des activités religieuses, des activités communautaires, des activités du conseil, des activités familiales, des activités de la jeunesse, des activités du recrutement, etc. Il y a de très belles pages. Sur l'apostolat des laïcs, en page 11, il y a des choses magnifiques. Hein? Toutes sortes de suggestions pratiques, concrètes. C'est pas une association qui se veut simplement sociale. Si vous lisez ces 40-50 pages, là, les jeunes de 25-30 ans, vous aurez le goût de vous y inscrire, j'en suis sûr. Et au besoin de réanimer une chose qui vieillit un peu. Avez-vous le courage? Vous pourriez lire aussi les revues qu'il publie, en particulier une revue qui vient des États-Unis, mais qui est publiée en français, Columbia. Il y a de très bons articles, j'ai lu ça, j'ai été ravi. Très, très belle chose. Vraiment. Or, lors de leur célébration, ici à Montréal, il n'y a pas si longtemps, eh bien, le cardinal Turcotte leur a dit des choses absolument admirables. Il leur a dit, quand Jésus a marché au milieu de nous, des malades ont été guéris, des pauvres ont été enrichis, des malheureux ont retrouvé la joie, et des puissants et des riches ont été confondus. Et le royaume est là, dit-il, mais il est fragile, et il est attaqué. Il leur a dit aussi, les forces du mal sont encore à l'œuvre, et la fascination du pouvoir, de l'argent et du plaisir continue de faire chavirer des têtes et des cœurs, et des gens sont encore opprimés, et des millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui n'ont toujours pas suffisamment mangé. Des injustices, des violences et des abus sont commis en grand nombre chaque jour. La terre n'est pas encore un paradis, Mais le Christ est venu. Il demeure parmi nous, nous invitant à poursuivre l'œuvre qu'il a entreprise, comptant sur nous pour faire grandir ce qu'il a semé. Or, quand on y pense, c'est à l'intérieur de ce royaume, avec Jésus, que se situe cette mission des chevaliers de Colomb, et le cardinal Turcotte pointe du doigt les problèmes concrets, et dit « Vous formez un groupe de personnes qui veulent agir dans la société et dans l'Église à titre de chrétien. » Ce qui signifie que votre source première d'inspiration, c'est quoi? C'est l'Évangile de Jésus, puis l'Évangile n'est pas neutre, dit le cardinal. Il ne se contente pas d'inviter à faire le bien et à éviter le mal de façon générale, au contraire. Il pointe le doigt vers des priorités qui s'imposent. Il ajoute « Dieu n'est pas neutre ». Que le cardinal parle bien des fois, hein? Jésus non plus n'est pas neutre. Il a des privilégiés. Ce sont les malades, les pécheurs, les marginalisés, les oubliés, les déprimés, les enchaînés, les affamés, les persécutés, les faibles, les sans défense. Comme mon pauvre fils, quand je l'ai adopté, il avait 18 ans. Il était comme ça. Vous devez, vous aussi, avoir vos privilégiés, c'est-à-dire ceux-là qui, dans notre société, dans l'Église, sont les plus malheureux, les plus oubliés, les plus démunis. Lors de vos rencontres, en planifiant, votre travail, et en fixant des priorités d'action pour les années qui viennent, c'est à eux, c'est aux plus malheureux, aux plus oubliés, aux plus démunis que vous devez penser. Cela ne va pas de soi. Ça exige un examen attentif du monde dans lequel vous vivez. Des paroles magnifiques. Des paroles extraordinaires que le cardinal leur dit. Et c'est ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils sont fidèles à l'option inconditionnellement pro-vie et pro-famille. Les chevaliers de Colomb. Ils sont vraiment centrés sur une croisade pour la vie, pour sauver toutes ces vies malheureuses. Et les délégués se sont engagés à Montréal à se battre pour le rétablissement de lois protégeant intégralement les enfants à naître, les malades, les handicapés, les personnes atteintes de maladies incurables, les vieillards. Leur organisation va continuer ainsi à s'opposer à toute action gouvernementale qui promeut, légalise ou finance de quelle façon que ce soit l'avortement, l'infanticide, l'euthanasie ou le suicide assisté. Puis, ils veulent aussi aider les médias. Ils veulent faire que les artisans des médias en arrivent à s'auto-réglementer de façon responsable et à renoncer aux formes de communication qui sont moralement offensantes et socialement ou psychologiquement injurieuse, surtout envers les valeurs familiales et la foi religieuse. Ils veulent aussi travailler de façon donc pour garder les choses, mais aussi pour faire avancer les choses. Et plus que jamais, les chevaliers de Colomb doivent être conscients de leur dignité baptismale, plus assidus à la prière et dans leur recherche de la sainteté, et plus courageux pour défendre la vérité morale. Qui leur dit ça? C'est le pape. Ils doivent être plus que jamais conscients de leur dignité baptismale, plus assidus à la prière et dans leur recherche de la sainteté, et plus courageux pour défendre la vérité morale. Ce souci devrait être au cœur de l'amour que chaque chrétien ressent pour l'Église, dit le pape. Bien des jeunes hommes et des jeunes filles continuent d'entendre l'appel du Seigneur et trouveraient plus facile de répondre avec toute la générosité de leur cœur s'ils savaient que la communauté de foi valorise et apprécie leurs décisions et en réponse à cet appel à l'évangélisation, le chevalier suprême des chevaliers de Colomb a cité l'exemple de la campagne de recrutement Jubilé 2000 entreprise par son ordre, où il cherche à favoriser justement des vocations de l'enthousiasme et une passion pour le Christ qui soit vraiment un renouvellement de l'Église comme le souhaitait hier Chesterton et comme va le souhaiter demain à mon émission cette merveilleuse sœur Marie de Saint-Pierre dont je vous parlerai demain, qui est morte en 1848 au Carmel de Tours et qui a établi l'œuvre de la Sainte Face.